voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
L'inventaire de la flore du continent africain vient enfin d'être réalisé. C'est incroyable que cela n'ait pas été fait plus tôt, mais vous allez comprendre pourquoi avec nos invités. Bonjour Thomas Couvreur.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. C'est vous qui avez coordonné cet inventaire que vous avez réalisé avec une trentaine de collègues. Cela donne une base de données en libre accès, RenBio. Pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait plus tôt ? Enfin, vous, la recherche au sens large.
Donc l'inventaire de la flore, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça peut être assez compliqué, il faut aller sur le terrain, il faut faire des collectes de spécimens. Vous avez entendu dans le reportage d'ailleurs que même pour les forestiers, ils doivent inventorier leur flore. En Afrique, les conditions de travail peuvent être un petit peu compliquées. Il y a des forêts denses, il y a des manques d'accès à des coins reculés. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais il faut savoir qu'en Afrique, on a déjà une idée de la flore depuis pas mal de temps. Donc il y a des flores qui sont sorties, mais ces flores étaient assez fragmentaires. Donc le but du projet RenBio, c'était d'utiliser la masse de données que l'on avait actuellement dans les herbiers, donc dans les musées pour plantes, on peut appeler ça comme ça. Donc un herbier, c'est une planche séchée d'une collecte et botanique. Et cette collecte botanique est stockée dans les herbiers. Donc ça permet de faire un inventaire. Pourquoi est-ce que cet inventaire arrive si tard ? La synthèse de ces données se fait principalement par la digitalisation des spécimens. Donc il faut les scanner, il faut les rentrer dans des ordinateurs et dans des bases de données. Et donc le but du projet RenBio, c'était d'utiliser ces données-là et de les synthétiser entre les grands herbiers du monde afin d'en tirer une synthèse sur la flore.
Vous avez donc compilé ces bases de données et des données, il y en avait des milliers.
Voilà, donc on a commencé par le début qui était de faire un inventaire de tout ce qui était dans les herbiers participant au projet. Et on avait des milliers et des milliers de spécimens. Ensuite, il faut trier les spécimens qui sont en double, c'est-à-dire une information qui est 2, 3, 4 fois. Et ensuite, il fallait aussi trier pour voir les informations qui étaient valables ou pas. Donc des informations qui pouvaient être utiles pour l'inventaire et des spécimens qui ne contenaient aucune information, qui étaient mal inventoriés ou qui n'avaient tout simplement pas de données sur les lieux et le temps de collecte.
Et donc au total, c'est 500 000 de spécimens que vous avez triés, c'est cela ? Collectés d'ailleurs sur une période de temps très très longue, hein, de 1782 à 2015.
Voilà, donc dans notre base de données, nous avons plus de 600 000 données d'occurrence unique, c'est-à-dire 600 000 collectes herbiers uniques qui s'étalent depuis les années 1700 jusqu'à maintenant et qui retracent un peu l'histoire de collecte aussi de la flore africaine. Voilà.
Et cela donne un nombre important de plantes, hein, à peu près 25 000 plantes que vous avez donc répertoriées et ça donne des informations sur leur répartition géographique.
Voilà, donc dans les 600 000 spécimens botaniques référencés dans notre base de données, ça nous renseigne sur la distribution d'environ 25 000 plantes en Afrique tropicale, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, mais qui exclut plus ou moins le sud de l'Afrique, donc l'Afrique du Sud et la Namibie par exemple, parce que c'est des régions qui ne faisaient pas partie de l'objectif de notre étude, qui était vraiment centré. Parce que c'est des bases de données qui n'étaient pas accessibles au moment de notre étude, et donc on a décidé de se focaliser sur l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Notamment, c'était aussi là où on avait aussi le moins d'informations et les moins de synthèses sur cette flore à ce moment-là.
Et il y a une différence entre les zones humides et les zones sèches, évidemment, en termes de biodiversité ?
Oui, bien sûr. La plus grande partie de la biodiversité se retrouve dans les forêts tropicales humides, donc qui s'étendent en Afrique de l'Ouest. Il y a le bassin du Congo, qui est le deuxième massif forestier après le bassin de l'Amazone, et quelques îlots forestiers le long de la côte en Afrique de l'Est. Et ces régions-là, cet écosystème-là, contient une énorme diversité en plantes.
Et il y a des différences au sein même, hein, du bassin forestier. On peut faire une hiérarchie Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest ?
Voilà, donc en inventoriant et en faisant cette synthèse, on arrive à estimer le nombre total d'espèces qu'il y a dans chacun de ces blocs forestiers. Et certaines zones s'avèrent être beaucoup plus diversifiées que d'autres. Ensuite, il faut aussi un peu faire la part des choses entre le fait que la base de données risque de ne pas être exhaustive, donc on n'a pas inventorié toutes les espèces, mais ça nous donne cette bonne idée en termes de diversité.
Alors, au total, combien y a-t-il d'arbres en Afrique, d'espèces d'arbres ?
Donc, une étude récente en Amazonie, par exemple, avait réussi à estimer le nombre d'espèces d'arbres. Donc, nous, dans notre étude, on s'est dit, ben, nous aussi, on va estimer pour la première fois le nombre total d'espèces d'arbres. Et on est arrivé à plus ou moins 3000 espèces d'arbres répertoriées dans les forêts en Afrique tropicale. Alors ça, c'est plus ou moins 4 fois moins que ce qui a été répertorié en Amazonie. Et donc ça, ça confirme un patron de diversité qu'on connaît déjà depuis un certain temps, comme quoi les forêts tropicales d'Amazonie sont nettement plus diversifiées que ceux en Afrique tropicale.
Alors comment cela s'explique ?
Alors ça, c'est une bien grande question et qui peut s'expliquer par de nombreuses hypothèses.
Est-ce qu'on sait résoudre cette énigme ?
Non, alors ça peut être lié à plusieurs facteurs, rien que le climat par exemple. En Afrique, le climat est nettement plus sec comparé à l'Amazonie. Bon, tout est relatif, hein, il pleut beaucoup en Afrique, mais comparé à certaines zones dans le bassin amazonien où il peut pleuvoir des litres et des litres d'eau, il y a certaines régions en Afrique où il y a beaucoup moins de précipitations relativement à l'Amazonie. Ça peut s'expliquer aussi par des facteurs évolutifs. L'Afrique a peut-être connu des périodes d'extinction plus massives, potentiellement liées à des climats qui étaient moins favorables à la prolifération des espèces en forêt tropicale humide comparées au bassin amazonien. Et voilà, donc tout ça reste des hypothèses que les chercheurs essayent de tester par rapport aux données qu'on récolte.
Et est-ce que l'on peut répondre à la question de l'arbre le plus présent en Afrique ? Ou l'espèce, la flore la plus présente ?
Non, alors nous ce qu'on a réussi à répertorier, c'est plus ou moins les familles les plus abondantes. Par contre, en termes d'espèces, c'est combien la taille des populations, cela va s'avérer un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas encore les données. Pour ça, il faudrait des données de plots écologiques où on prend des hectares de forêt et on compte un à un les espèces. Et avec ça, on arrive à faire des extrapolations par rapport à l'espèce qui serait la plus abondante.
Alors quand vous dites les familles, est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles sont les familles les plus importantes, mais en langage simple, pas en langage trop scientifique pour qu'on comprenne de quoi vous parlez ?
Alors j'ai pas le tableau en tête, donc je pourrais pas dire le premier essai. Mais en général, la famille la plus diversifiée, c'est la famille des caféiers. Donc ça, c'est les rubiacées, hein, en langage scientifique, qui est une famille extrêmement diversifiée dans les sous-bois de forêts tropicales humides, mais il y a aussi quelques arbres qui existent.
Alors, il y a des pays où le recensement est moins important que dans d'autres, tout n'est pas répertorié.
Voilà, donc là on arrive à des questions un petit peu plus techniques entre les pays. Par exemple, les pays qui ont été ciblés par des flores, des projets soutenus financièrement pour en inventorier le pays, donc faire des flores de chaque pays, sont relativement mieux connus. Par exemple, c'est le cas du Gabon, où la flore du Gabon sera terminée d'ici la fin de 2018. La flore du Bénin aussi est extrêmement bien connue. D'autres pays comme la République du Congo ou Congo-Brazzaville, les efforts des missions sur le terrain sont très actifs à ce niveau-là, mais la répertoriation et la synthèse des données restent encore un peu à la traîne. Donc il y a un peu un trou noir, par exemple, en République du Congo, tant sur la digitalisation des données que sur la disponibilité des inventaires pour la recherche.
Alors que c'est un pays énorme, qui a une grande étendue et qui abrite de nombreuses forêts.
Oui, voilà, donc la République du Congo a de vastes territoires couverts par des forêts tropicales humides. Il y en a au nord, il y en a près de la côte qui sont extrêmement diversifiées. C'est certainement des régions fascinantes, mais malheureusement, voilà, il manque crucialement des missions botaniques, des inventaires botaniques de cette région pour vraiment pouvoir quantifier la totalité ou la richesse en espèces de ces différentes régions.
Voilà, ben on va peut-être créer des vocations avec cette émission. Allez, c'est le week-end sur RFI et pour vous détendre, le coup de cœur musical du moment de François Porcheron que je partage, le groupe new-yorkais The Lemon Twigs.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'une des biodiversités les plus riches et les plus contrastées du monde, la flore africaine, dont l'inventaire vient enfin d'être publié grâce au travail d'une trentaine de chercheurs que vous avez coordonnés, Thomas Couvreur. Alors, l'objectif de cet inventaire, c'était aussi d'attirer l'attention sur des zones à protéger.
Oui, donc bien sûr, quand on fait un inventaire, on est au courant des régions qu'on connaît bien, mais aussi des régions qu'on connaît peu ou mal. Et donc, ça nous permet de pouvoir se focaliser sur ces régions-là en termes de collecte sur le terrain et de synthèse de ces données dans ces zones particulières.
Oui, parce que vous me disiez, la moitié des espèces recensées sont menacées, c'est énorme.
Oui, voilà, donc grâce à ces données-là, on arrive aussi à avoir une idée sur la menace qui pèse sur des espèces. Une espèce qui est très largement distribuée, c'est une espèce qui sera moins menacée qu'une espèce qui n'est connue que de un ou deux collectes au fin fond du Cameroun ou alors le long d'une route, par exemple, hein, ça arrive. Donc ces espèces-là, grâce à leur distribution géographique, on arrive à avoir des idées sur les menaces qui pèsent sur leur survie. Et donc d'après notre base de données, plus de la moitié des espèces auraient un statut de conservation qui serait menacé.
Cela est dû à quoi ?
Bon, les menaces telles que nous on les infère peuvent être dues à plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est l'exploitation non durable d'une ressource. L'autre peut être tout simplement que c'est une espèce qui est rare, mais qui est biologiquement conçue comme cela, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle est largement distribuée dans la forêt, mais on ne la rencontre que très peu souvent, et donc elle est collectée aussi que très peu souvent. Mais ça, c'est plutôt une menace qui vient du fait qu'on a une manque de connaissances sur cette espèce-là. Mais les espèces qui nous préoccupent les plus, c'est les espèces qui sont menacées et qu'on connaît aussi très bien et qui peuvent produire aussi des ressources importantes pour les populations locales.
Par exemple ?
Donc, il y a par exemple au Cameroun, dans la partie ouest et nord-ouest, il y a un palmier qui s'appelle le raffia, le nom scientifique est Mambilinensis ou le raffia de Bamenda, qui est une ressource incroyable pour les populations locales. Elle produit du vin de raffia qu'on consomme pour les loisirs mais aussi dans les cérémonies culturelles, donc elle sert dans les mariages, les funérailles, donc une importance culturelle fondamentale. Elle produit aussi des vers blancs de raffia qui sont consommés par les populations locales et qui produisent une source de protéines vraiment extrêmement importante. Et elle est aussi utilisée pour tout ce qui est construction. On peut utiliser les feuilles pour faire des toitures, des barrières. Et elle produit aussi des fibres, donc on peut aussi s'habiller. Cette espèce est localisée dans cette zone montagneuse du Cameroun, aussi un peu au Nigeria. Elle est très présente, mais les modélisations qu'on fait sur cette plante-là montrent qu'elle risque d'être menacée d'ici la fin du siècle. Donc les changements climatiques vont impacter cette espèce et vont potentiellement mener à son extinction, même si de nos jours, elle est assez commune.
Alors à partir de cet inventaire, vous êtes en train d'élaborer de nombreuses recherches, notamment les conséquences des changements climatiques. Vous citez cette espèce, il y en a d'autres qui sont menacées. Alors après, c'est toujours pareil, c'est avec un gros point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas trop comment le climat va évoluer, mais j'imagine que vous prenez un scénario pessimiste, un scénario optimiste.
Voilà, donc grâce aux données de distribution, on peut extraire une information fondamentale pour chaque espèce, et ça, c'est les conditions climatiques sous lesquelles cette espèce aime pousser. Donc bien sûr, de nos jours, elle pousse dans les régions où elle se trouve, et ça permet d'avoir une enveloppe, on va dire, climatique. Si on change cette enveloppe climatique, sous certains modèles de scénarios de changement climatique futur, on peut aussi voir comment est-ce que cette espèce va réagir. Donc si les conditions climatiques changent, cette espèce-là pourra peut-être mieux survivre ou alors, à contrario, se réduire dans sa distribution. Et donc, dans le cadre de ce projet, ce que nous avons aussi fait, c'était de modéliser chaque espèce selon un certain nombre de scénarios climatiques futurs d'ici la fin du ce siècle. Et nous avons vu que certaines espèces vont être amenées à disparaître ou leur aire de distribution va diminuer, alors que d'autres, à contrario, vont grandir dans leur aire de distribution.
Il va y avoir des changements profonds et vous dites aussi, au-delà des changements climatiques, il y a les pressions immédiates évidemment qui sont l'activité de l'homme, que ce soit la déforestation, l'agriculture, les villes qui s'étendent, les routes. En même temps, c'est difficile de dire qu'il faut préserver à des pays en plein développement économique. En France, nous n'avons pas su le faire par exemple.
Non, bien sûr, en Europe, on n'est pas du tout l'exemple à suivre, je dirais. Mais l'enjeu est un peu différent dans les forêts tropicales d'Afrique. Il y a une telle biodiversité et ces forêts-là jouent un tel rôle, pas seulement au niveau régional, mais aussi au niveau global, en termes de séquestration de carbone, en termes de contrôle de la précipitation. Donc c'est un enjeu un petit peu différent, je dirais. Mais l'espoir, c'est qu'on peut y arriver. Donc on a entendu dans le reportage sur la SEB où...
Oui, le reportage donc, qui était dans la première partie de l'émission sur la gestion durable des forêts au Gabon.
Oui, voilà, donc ça c'est un exemple très important et très intéressant sur l'exploitation durable d'une forêt qui permet à la fois de satisfaire la population populations locales, les gens qui veulent qui exploitent la ressource et la biodiversité.
On sait faire finalement.
Oui, on sait faire, mais il faut forcer les gens à le faire. Il faut aussi forcer les gens à changer leur manière de consommer. Donc quand ils voient du bois certifié, il faut favoriser le bois certifié par rapport à du bois non certifié. Donc
certifié
il y a les bons élèves.
FSC notamment.
FSC, oui, notamment. Oui. Il y a les bons et les mauvais élèves.
Mais après, comme on l'entendait dans le reportage aussi, la difficulté, c'est que tous ces critères de durabilité dans l'exploitation coûtent assez cher. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les plus gros qui peuvent se permettre d'exploiter durablement la forêt, par exemple.
Donc moi je suis pas vraiment un spécialiste de ces questions-là, malheureusement.
Non, mais c'est ce que disait Alain Carcenti du CIRAD, qui lui est spécialiste de ces questions dans le reportage.
Oui, donc c'est sûr que les certificats vont demander un certain nombre un budget en fait pour y favoriser ce genre d'activité. Mais bon, après, moi je suis pas trop sûr de comment est-ce que chaque compagnie peut faire pour y arriver. Je parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir estimer les menaces qui pèsent sur les espèces. Et donc, il y a tout un organisme qui s'occupe de ça au niveau mondial, qui s'appelle l'IUCN.
L'Union internationale pour la conservation de la nature.
Voilà. Et donc, eux, ils produisent des listes qu'on appelle les listes rouges, sur lesquelles on place les espèces menacées. Et c'est la seule liste que les gouvernements, les entreprises et les instituts publics doivent suivre s'ils veulent rester dans des cadres de certificats durables. Donc c'est une liste extrêmement importante à avoir. Et c'est aussi une liste dans laquelle notre projet a réussi à emmener un certain nombre de données, notamment par rapport à toutes les espèces menacées qui ont été issues de notre analyse.
Et alors le principe de cet inventaire, je le disais au début de l'émission, c'est qu'il soit mis en ligne, consulté le plus possible, qu'un maximum de personnes, et notamment de décideurs politiques, se l'approprient.
Voilà, donc la liste qu'on a produite, elle est donc la base de données, elle est disponible en ligne gratuitement. Elle n'est pas encore sous forme interactive, c'est-à-dire que ça reste quand même juste une liste qu'on peut télécharger sous format Excel, par exemple, où on a la distribution de toutes les espèces. Ça peut être utilisé par des chercheurs dans les pays du Sud pour essayer notamment d'essayer de mieux comprendre les niveaux de menaces, par exemple, sur les espèces. Ça peut être utilisé à des fins de pédagogiques pour apprendre ou connaître la distribution de telle ou telle espèce connue dans le pays. Et nous sommes aussi dans le processus de créer un site web dans lequel ces données seront visibles d'une manière interactive et un petit peu plus agréable pour le grand public.
Et puis vous exploitez encore toutes ces données. En ce moment, il y a beaucoup de recherches qui sont en train de se développer autour de cet inventaire.
Oui, voilà. Donc, grâce à cet inventaire, on peut, comme je l'ai dit, prévoir comment est-ce que la végétation en Afrique tropicale va réagir par rapport au changement climatique d'ici la fin du siècle. On peut avoir des idées sur les menaces sur la flore. Et on peut aussi comprendre les différences entre les grands biomes, c'est-à-dire, par exemple, les différences entre les forêts tropicales humides ou les écosystèmes en savane, comme on discutait en début d'émission.
Cet inventaire s'appelle RainBio, R-A-I-N-B-I-O. Tapez cela dans les moteurs de recherche et vous aurez accès, en effet, déjà à la base de données en attendant une mise en ligne, on l'a compris, plus pédagogique et plus conviviale. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vois les nuages passer. Le ciel s'ouvrir Écoute la rivière se taire Personne pour vous regarder Contre un arbre Contre un arbre Les jours à cran Les jours qui font écran Ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces. Contre un arbre, laissez-vous faire, laissez-vous. Laissez-vous faire, laissez-vous vous porter sous le ciel ouvert, au bord de la rivière, à la langue liée. Les feuilles seront vos alliés, les corps. Impénétrable, vous resterez caché contre un arbre. Contre un arbre. Contre un arbre. Contre un arbre. Contre un arbre.